Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour, je suis Anne, de l'équipe Audible. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de sponsoriser ce nouvel épisode de Sillage, le podcast créé par les EcoStarts. Il est bien sûr disponible sur l'application Audible. D'ailleurs, si vous aimez écouter des podcasts ou des histoires inspirantes de parcours professionnels, je vous invite à faire un tour sur notre catalogue. Des coachings audio aux fictions sonores, vous pourrez y télécharger de quoi assouvir votre soif de découverte. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Et longue vie à Sillage.
Bienvenue dans Sillage. Ce podcast est fait pour vous, pour que vous nous racontiez vos histoires, que vous vous inspiriez de celles des autres, qu'elles vous donnent envie de vous lancer. Je suis Déborah Loye, journaliste aux EcoStarts, et je suis très heureuse de vous présenter cette première saison. Elle s'appelle Rebondir parce que nous y donnons la parole à des jeunes qui ont connu un échec ou un accident, mais surtout qui ont su se relever et repartir de plus belle. C'est le cas de Jean. À l'école, il excellait dans les bêtises, mais pas aux examens. Pour se révéler, il lui fallait du concret. Heureusement, un jour, une entreprise lui a donné sa chance.
J'ai 18 ans et... Je suis en BEP mécanique moto et j'ai 19 de moyenne alors que j'ai été un cancre toute ma vie. Donc je double ma moyenne et à ce moment-là, je me dis que j'ai un petit problème, quoi. Je me suis toujours vu comme un type un petit peu malin, tu vois, et le fait de se retrouver avec que des mecs qui savent à peine lire autour de toi, ça m'a vraiment mis j'ai eu un choc à ce moment-là, je me suis dit... C'est à ce moment-là que j'ai eu l'espèce de prise de conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ma mère, elle a cette espèce de vanne sur moi qui dit que... Ouais, quand t'es né, le médecin, il t'a mis une fessée, toi, tu lui as mis un coup de poing. C'est un peu ce qui me représente, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai une espèce de fougue où je suis un peu nerveux, parfois, où je peux un peu m'énerver, etc. Quand j'étais plus petit, on m'appelait la force aveugle. Mes parents, ils m'appelaient la force aveugle. C'était assez... L'école, ça a toujours été un peu compliqué. Même vers 3-4 ans, j'étais déjà dans des trucs où je préférais m'amuser. J'aimais pas être en rang, j'aimais pas faire la sieste. Je préférais juste jouer tout le temps, dès que possible. J'étais assez créatif dans la connerie. J'aimais bien faire des trucs un peu à la con, genre prendre de l'eau dans ma main, l'acheter sur une porte... Donc t'avais plein d'eau qui ruisselait sur la porte, donc c'était une porte de cour, etc. Tu vois, tu prends de l'eau, tu la jettes, tu mets un grand coup de pied dans la porte et tu pars en courant. Et juste le fait d'avoir un prof qui ouvre la porte et qui voit juste de l'eau couler sur la porte, ça me faisait marrer. Avec le recul, je me rends compte que c'est une vanne vraiment pourrie, mais moi je trouvais ça trop marrant et je le faisais tout le temps. Mon cerveau, il était accaparé par faire ce genre de truc. Du coup, ça, au début, ça pose pas trop de problèmes parce que, en fait, au début, t'apprends juste des trucs extrêmement basiques. C'est juste que tes profs doivent un peu plus te cadrer. Mais c'était pas trop problématique. Mais très vite, ils ont quand même senti que j'avais plus l'âme d'un cancre que d'un écrivain ou d'un mec ultra studieux ou quoi que ce soit. J'étais en CM1 et on était en cours de poésie et j'étais trop content de déclamer cette poésie que je venais d'apprendre 15 minutes avant parce que j'aimais bien la jouer, etc. Je la jouais, machin, ça faisait marrer tout le monde et moi je faisais l'intéressant, etc. Et il y a un mec qui a dit « Ouais, Jean, plus tard, il va devenir acteur. » Et la prof a dit « Non, Jean, il va devenir éboueur. » Sur le coup, ça m'a pas marqué, mais j'ai repensé quelques années plus tard et c'était un peu un truc de... Dès le début, en fait, tu sens qu'il y a un espèce de truc de... L'échec scolaire, il est un peu programmé, tu vois. Mon père et ma mère viennent d'Égypte. Et mon père, c'est l'aîné de 11 enfants et il vient d'une famille très modeste. Et donc, il a toujours cette espèce de truc. T'as l'impression qu'il allait à l'école en courant pendant 500 km quand il te raconte ses histoires, etc. C'est assez... Tu sais, il a vraiment le truc de « moi, je travaillais et puis mon père, il me donnait 5 francs. » Genre, c'était pas des francs, c'était des livres égyptiennes déjà, t'es un mytho. Mon père, il me donnait 5 francs et j'allais acheter un livre et je le lisais et j'étais content et tout. Donc, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai ou pas, mais il a toujours eu un truc de... il adore les études, il travaille, il a fait des études longues en France, etc. Il y a toujours cette histoire de « je suis arrivé en France, j'avais ça comme thune, je connaissais personne, je savais pas parler français, et 2 ans plus tard, eh ben, je me retrouve au coin du feu avec les poches pleines de pesos, etc. » Enfin bon, bref, tu vois l'espèce de truc de « moi j'ai réussi et toi tu dois réussir parce que t'as beaucoup plus de possibilités et de chances que moi. » Et il me l'a jamais formulé comme ça, tu vois, mais tu sens que le truc de se dire « attends, moi j'en ai chié, toi t'en chies pas du tout, t'as juste à travailler, pas trop foutre la merde et tu pourrais t'en sortir. » Et non, j'arrive pas à faire ça. Du coup, c'est un truc qui le bloquait et qui l'énervait. Et donc, au bout d'un moment, arrive le moment où tu fais trop de conneries. Et donc, en 6e, je me fais virer. Et là, mon père, il était mais furieux contre moi. Il ne me parlait plus du tout. Il ne m'a plus parlé jusqu'au 12 juillet 1998. Donc, la date à laquelle on a gagné la Coupe du Monde. Et il ne m'a plus parlé jusqu'au 2e but de la tête de Zidane. Où à ce moment, il s'est tourné vers moi. Et il m'a... En fait, il ne m'a même pas parlé. Il m'a juste fait un check, genre « Yes !» Et ça y est, paf, je réexistais à ses yeux. Et j'ai pu avoir un été normal. Il n'y avait plus de problème, etc. Donc, Zidane a sauvé mon été 98. Merci Zizou. En fait, quand t'as un enfant qui est en difficulté scolaire, c'est un enfer pour toi parce que tu passes ton temps dans les bureaux des profs, tu passes ton temps dans les bureaux des proviseurs, tu passes ton temps à tout négocier. Genre, si demain, il y a une prise d'otage, j'envoie mes parents direct. Genre, démerdez-vous, et le mec, il va étrendre les armes et donner 10 euros, je sais pas. Enfin, bon, bref, tu vois, je suis sûr qu'ils sont devenus trop forts en négociation, un truc grâce à ça, quoi. C'est vraiment... ils étaient tellement obligés de dire « Non, mais vous voyez, c'est pas de sa faute, et il va faire des efforts. Indique, tu vas faire des efforts. Oui, il va faire des efforts, machin. » Parfois, j'étais pas dans la pièce, donc je sais pas du tout ce qu'ils leur racontaient, mais ils ont toujours réussi à se débrouiller, à trouver des trucs pour que je puisse passer entre les gouttes et qu'il y ait un établissement qui arrive à m'accepter. Donc en gros, je me fais virer et il faut que je retrouve mes parents, il faut qu'ils retrouvent une nouvelle école pour moi. Donc ils cherchent un autre collège, etc. Ils trouvent un autre collège, j'y vais, je fais les mêmes conneries. Bon, pas avec de l'eau, mais avec plein de... tout ce qui était possible et imaginable, j'ai réussi à le faire, tu vois. Donc je me fais virer de ce collège-là et j'arrive dans le dernier collège que je ferai. Heureusement, ça fait déjà 3, c'est pas mal. Donc j'ai clairement pas le niveau pour aller en seconde, mais les mecs, ils se sont débarrassés de moi comme ça, tu vois, ils m'ont laissé passer en seconde. Je fais cette seconde STI, je m'ennuie complet, je retape, et en fait je vais dans un autre lycée, parce que je m'étais fait remercier. Ils m'ont pas viré cette fois-ci, je pense qu'ils m'ont pas viré parce qu'ils se sont dit que je retrouverais vraiment rien, mais ils avaient un peu une certaine sympathie pour moi, je crois, donc... Parce que j'étais pas un méchant non plus, tu vois, genre j'étais un fouteur de merde, mais je crois que j'ai un bon fond, j'espère en tout cas que j'ai un bon fond. J'ai toujours été attiré par les trucs visuels, les films, les jeux vidéo, les animés, tout ce que tu veux. J'ai fait une seconde audiovisuelle dans un lycée un peu loin de chez moi. Et là, je me suis fait réorienter en BEP parce que encore mes notes étaient foireuses, encore je foutais la merde. Donc au bout d'un moment... c'était un BEP mécanique moto. Du coup, en fait, je trouve une alternance... où c'est à moitié à l'école et à moitié dans un atelier de moto. Et donc je trouve un atelier de mécanique moto à Boulogne, etc. Et en fait, au bout de 2 semaines, je me rends compte que les blagues de cul, les calendriers Pirelli et les vidanges, ça me fait chier. Je suis pas stimulé mentalement. J'ai jamais cherché... En fait, J'ai jamais cherché à être stimulé mentalement quand j'étais à l'école parce que c'était le cas tout seul. Mais là, c'était vraiment... C'est tellement un boulot no-brain, tu réfléchis pas, tu vois, à part quand tu dois chercher une panne, etc. Mais c'était tellement changer des plaquettes de coursier que ça m'intéressait pas du tout. Et pareil, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? En fait, j'ai vraiment l'impression, je me suis dit, mais je suis bien en dessous de mes capacités, en fait. Et on a beau te le dire tout le temps, le fait que tu t'en rends compte toi-même, ça change tout. Du coup, j'ai pas terminé du tout mon BEP de mécanique moto. J'ai fait un an de mécanique moto en alternance. Et donc, je vais à ce moment-là, je vivais avec mon père. Je vais aller voir mon père et je lui dis, bon, bah là, j'ai envie de changer, quoi. Et je pensais qu'il allait me dire, oh non, putain, on va encore devoir chercher, c'est un enfer et tout. Et en fait, il était beaucoup plus excité que moi. Il était vachement heureux, il était très heureux de ça. Et donc, il m'a traîné dans tous les salons d'étudiants du monde. Il m'a réveillé tous les matins, il était là en train de me dire « Et ça, tu veux pas faire ça? Ça a l'air bien, ça !» Et moi, je faisais la gueule et je me baladais dans les couloirs en disant « Non, j'ai pas envie, je trouve ça nul, c'est chiant. » Et j'ai toujours aimé les jeux vidéo, etc. Et j'ai toujours eu ce rêve de faire du jeu vidéo. Et donc, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas un truc sur l'animation, le graphisme, le jeu vidéo, je sais pas trop. » Et donc, j'ai commencé à regarder les écoles, etc. Et les mecs étaient là, genre, t'as le bac? Non. Bon, bah, salut. T'as le bac? Non. Bon, bah, non. C'est... En fait, le seul diplôme que j'ai, c'est le brevet des collèges, parce que j'ai même pas terminé le BEP. À ce moment-là, c'est quelque chose de bloquant de pas avoir le bac, parce que, en fait, ça te ferme toutes les portes. Et il y en a une qui s'est entrouverte. C'était une école qui s'appelait IArtSup qui faisait de l'art graphique multidisciplinaire. Ils faisaient de l'animation, ils faisaient du site web, du dessin, du graphisme, de la pub, etc. Donc c'était un truc pluridisciplinaire et je me retrouve dans le bureau du directeur qui me dit « Écoute, t'as pas le bac, mais tu sais quoi, on va faire un pacte. Si... t'arrives à avoir plus que la moyenne, tu restes et tu passes à l'année suivante, et etc. » Donc je passe un an là-bas, je travaille toujours pas tant que ça, grâce à World of Warcraft, parce que je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et de nuit à jouer. Mais c'est des bons souvenirs, virtuels, mais c'est des bons souvenirs quand même. Et du coup, je passe pile, tu vois, et fin de deuxième année, il y a un grand projet, etc. Et après la présentation de ton grand projet, tu as 3 ou 4 mois de stage à faire. Et là, j'ai commencé un stage de 3 mois chez Publicis. Donc, j'étais assistant. Et je travaillais sur un budget bancaire. C'était l'ennui le plus total, mais moi, je trouvais ça formidable. En fait, dès le premier jour, je me suis dit que c'était formidable. J'étais extrêmement stressé parce qu'on m'avait dit « Est-ce que tu sais utiliser tel logiciel ?» J'avais dit oui, alors que ce n'était pas le cas. Donc, je regardais sur mon voisin, voir qu'est-ce qu'il faisait et comment il faisait, etc. Parce que le tuto YouTube, à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Donc, je copiais, un truc que je sais très bien faire, que je savais très bien faire à l'époque. Et donc, dès le premier jour, ça m'a plu. Dès le premier jour, j'ai trouvé ça trop bien. Le budget avait beau être nul. Moi, je ne me rendais pas compte que le budget était nul. Je trouvais juste ça trop cool de faire des choses concrètes, en fait. Des choses qui sortent, des choses que les gens pouvaient voir ou que moi, je pouvais voir ou que... mes potes, mes parents, n'importe qui pouvait voir. J'ai eu un vrai déclic à ce moment-là parce que je me suis rendu compte que je faisais des vraies choses concrètes. Et passer de la théorie à la pratique, ça change tout. En fait, je me suis mis à travailler que quand je me suis retrouvé dans le monde du travail. Alors mon stage se passe vachement bien. À la fin des 3 mois, ils me disent « Est-ce que tu veux rester en CDD ?» Et moi, j'avais l'école derrière, donc je leur dis « Bah, j'ai l'école derrière, mais si vous me faites un CDI, pourquoi pas ?» Et ils m'ont fait un CDI, donc je suis resté chez Publicis. Je pense que la qualité que j'avais et qui leur plaisait, c'est que j'étais assez besogneux. J'avais pas peur de... Je m'en foutais des week-ends, des machins et tout. En fait, je trouvais ça tellement sympa et cool de faire ça que... J'avais envie de le faire pas tout le temps, mais j'acceptais de travailler tard et c'était un budget qui était dur, les gens ils voulaient pas bosser dessus et tout, moi je trouvais ça cool quand même. Donc voilà. Le but quand tu es assistant, c'est de devenir directeur artistique. Et pour ça, le cursus classique, c'est de se mettre en team. Et donc arrive une petite nana qui s'appelle Mélanie Pennec, qui fait... c'est 1m59 d'énergie folle. Et donc on commence à bosser ensemble sur des petits sujets, on essaye de tirer des trucs à droite, à gauche, on fait un dos tous les deux et on va démarcher des agences. Et on fait un freelance chez une agence qui s'appelle l'agence V. On fait, le travail de 2 semaines en 1 semaine, on travaille comme des fous. On leur présente avec la voix tremblotante de « oui, et donc on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, etc. » Et les mecs nous trouvent bons et ils ont envie qu'on travaille avec eux. Et donc, ils nous proposent un contrat, etc. Et donc, c'est notre premier boulot en team. Et donc, on travaille sur tous les petits sujets, etc. De l'agence. Et l'agence, au bout d'un moment, fusionne avec la maison mère qui est DDB. Et on commence à travailler chez DDB. Ça se passe très bien, c'est assez cool. Après une expérience dans une autre agence qui s'appelle Altman Pacro, on retourne chez DDB et depuis on est resté chez DDB, on est très heureux chez DDB. Quand j'étais étudiant, je me disais waouh, j'aimerais bien bosser dans cette agence là parce que c'est une des agences qui fait les publicités les plus cool que tu peux avoir en France. Donc et là j'y suis arrivé, mais j'aime pas dire j'y suis arrivé parce que ça fait comme si j'avais réussi et que c'était bon, ça y est, c'était terminé, alors qu'il y a encore plein de choses à faire, quoi. Vu que j'ai pas fait le même cursus que les autres, j'ai l'impression d'être... Parfois, j'ai peur d'avoir des lacunes où, tu vois, parfois, les mecs parlent de tel ou tel truc que je connais pas et je suis là genre bon... Mais c'est pas grave parce que moi, je connais des trucs qu'eux, ils connaissent pas non plus. Et du coup, c'est pas... Le côté, j'ai pas de diplôme et j'ai que le brevet des collèges. Franchement, c'est jamais ressorti. On m'a jamais demandé quoi que ce soit. C'est juste... Pour le coup, Mélanie, ça, elle le met vachement en avant. Elle fait hey, « regarde, t'arrives à faire ça alors que t'as pas de bac, machin et tout. » C'est assez... C'est sa manière de faire en sorte de me rappeler que je peux réussir à faire des trucs qui me paraissent trop grands pour moi.
Merci à Jean d'être venu dans le sillage des EcoStart et à vous d'avoir écouté son histoire. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le dire avec un maximum d'étoiles sur iTunes. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, les EcoStart. Je suis Déborah Loye et je vous dis à très vite.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.